Gulliver, l'hebdomadaire des livres, des images et des idées. À la rencontre d'un écrivain, d'un photographe ou d'un plasticien pour mieux décrypter le monde.
Mon dessin ne représentait pas un chapeau, il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant.
Une production Divergence FM proposée par Alain Vaquier et réalisée par Bruno Bertrand.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous recevrons Robert Pialot. Robert Pialot qui écrit un livre au titre extrêmement évocateur, « La courtisane rouge ». Et évidemment, c'est un roman qui se passe en Chine, une Chine que notre auteur connaît très bien. Bonjour Robert Pialot.
Bonjour.
Alors, je disais en introduction que la Chine, vous la connaissiez très bien. Vous y avez vécu à peu près 17 ans, me disiez-vous.
Oui.
Et vous êtes de retour en France depuis à peu près 5 ans.
Voilà.
Vous étiez ingénieur.
Oui.
Et vous avez exercé ce métier, ces fonctions, donc en Chine du Sud, je crois.
Essentiellement en Chine du Sud. J'ai passé en gros un an et demi ailleurs que dans le sud, c'est-à-dire en fait à Pékin et à Tsingtao, puisque ma première fonction, c'était de rechercher pour le compte d'une multinationale française des sociétés qui étaient susceptibles d'être rachetées pour évidemment développer leur activité. Voilà. Et il se trouve que celle que j'ai trouvée les plus intéressantes se trouvait dans le sud et qu'au bout d'un certain temps, on m'a suggéré d'en prendre la direction. Donc voilà l'essentiel du travail que j'ai accompli, du moins dans les 5 ou 6 premières années.
Alors vous avez été le témoin de ce fait, puisque c'est lorsque la Chine a pris son essor international, vous avez été le témoin de cette ouverture fantastique et du fait que la Chine est sortie de ses frontières et en même temps que beaucoup d'étrangers sont venus sur son territoire pour y développer des activités.
Voilà, j'étais à la fois un témoin et un acteur, si je puis dire, et ceci d'autant plus que l'endroit où je me suis finalement installé pour diriger cette entreprise était une ville de taille moyenne, ce qui m'a permis d'aller de façon tout à fait naturelle au contact des dirigeants, soit de la municipalité, soit du parti, et en même temps de rencontrer pas mal de gens, quoi. Ce qui aurait peut-être été plus délicat pour moi si j'avais été intégré dans une mégapole du style Pékin ou Shanghai.
Alors, vous me disiez que lorsque vous y êtes allé, vous n'aviez aucune idée de ce qu'était la Chine. Et je suppose que vous avez dû être très surpris quand même, non ?
Bon, écoutez, je lisais quand même pas mal de choses depuis un certain temps, parce que la Chine occupe un peu nos esprits. Ceci étant dit, évidemment que c'était en gros 5-6 ans après 89. Donc se posaient encore beaucoup de questions. Il y avait eu une sorte de tour de vis quand même qui s'était effectué après le drame de Tiananmen. Voilà, et je me posais un peu la question, qu'est-ce que je vais découvrir là-bas ?
Est-ce que vous avez parlé la langue ?
Je l'ai baragouiné, parce que vous savez, dans les multinationales, au bout d'une heure, vous êtes en fonction. Mais naturellement, vous avez à côté de vous un ou une interprète qui parle parfaitement au moins l'anglais, quoi. Voilà. Donc j'étais dans cette situation-là, mais comme j'aimais beaucoup sortir, rencontrer des gens, etc., j'ai fini alors à coup de méthode à 6000 et aussi de discussion peu à peu. Quand on va faire son marché, on finit par discuter, quoi. Voilà. Donc je baragouinais le chinois, oui. Mais ce n'était pas suffisant pour les négociations industrielles sur lesquelles il faut être évidemment beaucoup plus pointu et sur lesquelles j'étais accompagné par des professionnels, des interprètes.
Est-ce que les Chinois sont plus durs en affaires que les autres nationalités ou pas ?
Oh, j'aime pas faire des généralités, mais pour répondre rapidement, je dirais plutôt oui. C'est un peu plus délicat, peut-être, pour nous occidentaux, que par exemple avec des Américains.
Ça va plus vite avec les Américains.
Ça va plus vite, voilà. Et puis, c'est un peu plus direct comme négociation, alors qu'en Chine, il y a des allers-retours. Par exemple, on vous dit un jour d'accord et le lendemain, on vous dit « Ah, hier, j'ai dit d'accord, mais aujourd'hui, je ne le confirme pas. » Voilà, c'est une formule que j'ai apprise là-bas et à laquelle j'ai dû évidemment m'adapter.
Alors, fort de cette connaissance de l'intérieur, et dans une, comme vous le disiez, dans une moyenne, donc dans, c'est la Chine profonde au fond, celle qu'on connaît le plus mal, pour nous, Occidentaux, et Français en particulier, qui ne sommes pas très. Ceux qui sont souvent réticents à tout ce qui est étranger, il faut bien le dire. Et donc, fort de cette connaissance, vous avez eu l'idée d'écrire un roman. Alors. C'est un roman qui a un côté particulier, c'est que on hésite un peu. C'est à la fois un polar avec une sorte d'enquête, on découvre, il y a une forme de suspense, et en même temps un peu un livre de voyage parce qu'on découvre au fil des pérégrinations du héros, on découvre des villes, Hong Kong, Saïgon d'abord, puis Hong Kong, puis des villes plus réduites, et puis pour arriver dans la ville où se passe l'essentiel de l'action. Je me suis demandé, c'est une ville réelle, la ville de l'intrigue, ou c'est une ville inventée ?
Non, alors, la ville est tout ce qu'il y a de plus réel. Par contre, je l'ai affublé d'un pseudo.
D'accord.
Voilà, pour, disons, des raisons évidentes de, je dirais, un petit peu de sécurité. Voilà. Mais je peux dire, pour vous répondre, que le drame, enfin, le fameux événement autour duquel tournent des personnages qui, certes, sont fictifs, comme dans tout roman, cet événement-là est bien réel, et il s'est produit devant mes yeux. J'étais en plein dans cette municipalité de taille moyenne d'un million d'habitants, en contact avec des gens qui, pour certains, ont été condamnés, y compris à mort, et il y a eu plus de 200 personnes condamnées. Et bon, c'était quand même. Et je vivais dans ce contexte-là, non pas en tant que reporter, bien sûr, mais en tant que responsable de la plus grosse société du pays, qui n'était pas énorme. C'était une boîte de 800 personnes à peu près. Mais encore une fois, ce qui me permettait d'avoir des contacts quasiment quotidiens avec des personnes du parti, etc., avec qui j'avais plutôt de bons rapports, d'ailleurs, sur le plan personnel.
Alors, le héros est donc un journaliste, une sorte de grand reporter qui connaît bien, lui aussi, la Chine, et qui donc part pour réaliser une enquête sur un tuyau que lui a donné un autre journaliste, d'ailleurs à l'occasion, qui est un journaliste anglo-saxon. Vous faites un peu l'éloge des journalistes anglo-saxons.
Écoutez, j'aime bien, bon, je ne veux pas encore une fois faire de généralité, mais tout de même, d'abord, il faut vous dire que lorsque je vivais en Chine continentale, je n'étais pas très loin de Hong Kong. Et Hong Kong est une plateforme relativement attractive, je dirais, par ses multiples aspects. Il y en a certains qui sont, je dirais, un peu désagréables, d'ailleurs, cette espèce de, je dirais, de veau d'or permanent, et de recherche de la richesse, etc. Mais par contre, il est certain qu'on y croise une faune extrêmement diverse, voilà, dont un certain nombre, évidemment, d'anglo-saxons, puisque Hong Kong est une ancienne colonie de la couronne.
Oui.
Et on y trouve, bien sûr, des gens, notamment quand ils aiment le rugby. C'est peut-être un des points communs qui m'a. Et c'est vrai que, objectivement, j'ai parfois assisté à des troisièmes mi-temps très sympathiques avec des Gallois. C'est exact.
Alors, en fait, oui, là, je parlais aussi de l'aspect journalistique anglo-saxon que vous avez l'air de valoriser par rapport à peut-être le goût pour l'enquête, pour l'investigation.
C'est exact. Encore une fois, si vous voulez, je l'ai constaté notamment à Hong Kong, puisque, bon, on vit dans un milieu où, naturellement, la presse chinoise est complètement muselée. Donc, quand on veut savoir un petit peu ce qui se passe, il faut quand même lire la presse britannique, enfin la presse anglo-saxonne. Et il y a, parmi les journalistes, certaines bonnes plumes.
Alors, donc, ce journaliste, muni de ce tuyau, va donc se rendre, alors progressivement, et c'est là qu'il y a la dimension du voyage qui intervient, va se rendre dans cette petite ville qui est un port.
C'est un port.
Hein, c'est un port, et c'est dans le cadre de ce port que se déroulent les trafics auxquels il va être confronté.
Ce qui est un peu bizarre, ce qui est effectivement, et encore une fois, je vous assure qu'il s'agit d'un événement réel, c'est que ce port n'est pas un port majeur dans le système chinois. Et il y est arrivé, par exemple, dans l'arsenal des produits de contrebande, il y avait environ 5000 voitures Mercedes, notamment, plus des BMW, etc. Donc c'est évident que ce n'était pas la pauvre population autochtone qui risquait d'absorber tout ce trafic. Voilà. Mmh. Donc ça m'a attiré. Je me suis rendu compte qu'effectivement, les mafias chinoises, aidées évidemment de leurs antennes internationales, pouvaient organiser et bien choisir finalement des lieux où normalement les choses auraient dû se passer plus facilement. En réalité, il y a dû y avoir des gens qui ont parlé et qui n'auraient pas dû, ou du moins qui étaient peut-être laissés sur le carreau dans cette affaire énorme et qui ont dû vendre la mèche, puisque c'est une commission centrale de Pékin qui est intervenue pour essayer de voir qui avait trempé là-dedans. En réalité, à ce moment-là, évidemment, on touche au problème de corruption. Il y en a qui sont corrompus, certes, mais qui ont des aides, des protections. Voilà, et d'autres moins.
Est-ce que la corruption est plus largement répandue en Chine qu'ailleurs ?
Bon, ailleurs, c'est très large. Je pense qu'il peut y avoir encore davantage de corruption dans quelques pays, par exemple en Afrique. Mais je pense que quand même, la Chine est en très bonne position si on veut faire un classement dans la corruption. Il y a beaucoup de corruption et cette corruption est en gros à tous les étages. Il y a ce que j'appellerais la corruption souriante, c'est-à-dire celle qui vous arrache un sourire. Par exemple, quand j'achetais un disque, d'abord il était piraté, un disque de jazz en général était piraté. De temps en temps, la fille qui tenait la boutique me disait « Ah ben, aujourd'hui, il y a contrôle, donc tu passeras un peu plus tard. » Voilà, elle était prévenue du contrôle, donc voilà. Donc, alors ça, j'appelle ça la corruption...
Souriante.
Encore que peut-être pour les artistes qui font du jazz, c'est un peu moins souriant que pour moi, qui était simple acheteur. Voilà. Et donc, puisque eux, ils ne touchent rien, qu'ils ne touchent pas. Mais à côté de cela, naturellement, la corruption est beaucoup plus grave dans beaucoup de milieux, que ce soit l'éducation, que ce soit la santé, et que ce soit naturellement l'économie, puisque quand il y a des problèmes de contrebande comme ça, naturellement, c'est beaucoup d'argent qui est en jeu et qui ne va pas là où il devrait aller.
Alors, c'est donc une affaire de contrebande de produits de luxe dont il est question, et qui, effectivement, a l'air de rapporter des sommes absolument fabuleuses. Et donc, alors, on sent bien que ces enjeux-là entretiennent des formes de violence quand même terribles.
Oui, oui.
Et vous, dans le livre, vous n'hésitez pas à décrire la façon dont procèdent les fameuses mafias chinoises.
Absolument. Alors, il s'agit d'une violence qui est relativement bien contrôlée, d'ailleurs, parce que, bon, encore une fois, il s'agit d'un personnage fictif. Mais moi, en tant que directeur d'entreprise, j'ai eu également à subir ce type de violence pour des raisons fort différentes de celles qui sont approchées dans le livre, mais qui étaient réellement liées à ma fonction. C'est-à-dire que quand vous êtes directeur d'entreprise, vous choisissez par exemple tel fournisseur plutôt que tel autre, et naturellement il y a des mécontents. Voilà. Et donc cela se traduit par une certaine violence dont j'ai eu moi-même à souffrir, mais je dis qu'elle est fort bien contrôlée parce que, étant un ressortissant étranger, donc susceptible tout de même, disons, d'attirer l'attention d'un ambassadeur, etc., c'était juste assez pour qu'il puisse espérer me faire taire et me faire changer mon point de vue, mais pas, disons, attenter à ma vie.
Oui,
voilà.
Oui.
J'ai voulu le reprendre là-dessus parce qu'effectivement, c'est très souvent comme ça que ça se passe. Il y a beaucoup de violence, mais en général, elle est, en somme, millimétrée, quoi. Cela dépend du type de fonction que vous avez et, disons, des protections. Donc, dans mon cas, j'avais un certain niveau de protection. Ceci étant dit, ça n'a pas été agréable quand même.
Oui, j'imagine. Alors, qu'est-ce qui vous a fait choisir ce titre, La courtisane rouge ?
Ah.
Parce que ça implique que, bon, il y a aussi du trafic d'êtres humains, de fait, un petit peu.
Oui. Alors, si vous voulez, courtisane, j'ai repris ce terme-là dans son acception littéraire. Quand vous lisez les récits, disons, de la Chine ancienne, vous constatez qu'il y avait une caste, je dirais, de personnages féminins, instruits, artistes, qui vivaient une vie tout à fait différente de la vie classique des autres femmes, qui étaient le gynécée, soit le mariage, soit le concubinage, avec évidemment une vie vraiment triste et pas très excitante. Or, les courtisanes étaient des filles qui étaient, de par leur qualité physique et aussi intellectuelle, les deux, capables, disons, d'avoir des rapports privilégiés avec les grandes de ce monde, en gros. Voilà. Donc ces gens-là, ces filles-là, ça a existé, et bon, il y a, avec probablement un plus faible nombre aujourd'hui, quelques personnes, c'est pour ça que je l'appelle rouge, pour évidemment, c'est une actualisation, en somme, du phénomène. Il n'y en a pas beaucoup, mais j'ai rencontré des filles qui roulaient sur l'or, pratiquement, elles avaient 5 ou 6 voitures, par exemple. J'en ai rencontré quelques-unes, 2 ou 3, voilà. Moi-même, c'est-à-dire, et qui avait un peu ce type de profil, avec un certain niveau intellectuel, et bon, elles monnayaient leur charme, quoi. Il faut dire les choses comme elles sont.
Et elles s'en servent avec à bon escient pour faire avancer leur propre intérêt, quoi.
Voilà, et en général, effectivement, ce ne sont pas des sentimentales.
Non, pas vraiment. Alors, vous décrivez ça, c'est formidable, parce que, du coup, à travers le phénomène de l'enquête, on approche beaucoup de milieux aussi. Il y a les petits marchés, vous donnez des indications sur les cuisines, ce que l'on mange, les petits hôtels. Enfin, il y a tout, ça fourmille comme ça de documentation. On pénètre dans la Chine, cette Chine-là, quotidienne, profonde, et tout en suivant le reporter. Et ce qui donne... on pourrait presque faire une cartographie du roman à travers les différents déplacements du héros.
Oui, écoutez, bon, ça c'est un peu la rançon du fait d'y avoir vécu. Quand vous vivez longuement dans un pays, vous n'allez pas rester chez vous à lire. Tout de même, il faut sortir, avoir des amis. En général, d'ailleurs, c'était plutôt les jeunes gens, entre, on va dire, 25 et 35 ans, qui souhaitaient, je voyais très bien... souhaiter le contact avec moi, en dehors, si vous voulez, des affaires. Disons, des affaires, voilà. Et donc, ces gens-là, bon, ils m'amenaient avec eux sur les petites îles, puisqu'il y a pas mal de petites îles dans le sud, etc. Ils m'ont fait découvrir beaucoup, notamment de gastronomie. C'est évident qu'avec eux, ils m'ont même fait manger du chien à mon insu, parce que j'avais dit... ni chien, ni chat, moi je suis contre. Et puis ils se sont dit, bon, on va l'avoir. Et effectivement, ils m'ont tué. Bon, je veux dire, mais ça rentre. Quand vous allez dans un dapaidang en Chine, c'est-à-dire une sorte de gargote, qui est, au point de vue hygiénique, vraiment limite. Hey, hey. Mais par contre, superbe au point de vue gastronomique. Bon, vous avez à l'entrée une trentaine de chiens, je parle du sud de la Chine, trentaine de chiens écorchés qui vous attendent, voilà.
Oui, un peu comme on pourrait trouver des cochons de lait en France.
Voilà, alors même, là-bas, c'est des chiens, des chats, et parfois encore pire, il y a des civettes, des superbes animaux sauvages qui ont été capturés et qui attendent la mort dans une cage. C'est un peu atroce à voir, honnêtement. Il y a des côtés sympathiques, il y a des côtés aussi vraiment un peu dégueulasses, si j'ose dire.
Voilà. Alors, c'est une Chine très contrastée que l'on découvre à travers une enquête qui est assez palpitante. Et alors, je ne voudrais pas trop dévoiler la fin, parce que on ne s'attend pas du tout à ce qui se passe. Et donc, laisser le plaisir à nos auditeurs de découvrir ce livre qui est à la fois, donc, comme je disais, un polar quand même. Hein, ça aurait très bien pu être édité dans la collection noire chez Gallimard. Et en même temps, une merveilleuse plongée dans l'univers chinois d'aujourd'hui. Et on voit bien que vous y avez vécu longtemps parce que vous connaissez bien ce pays.
Oui, écoutez, franchement, je ne pourrais pas dire que je ne l'ai pas aimé. Franchement, même si je suis relativement critique sur des aspects tels que la corruption, les inégalités sociales qui sont quand même énormes. Gigantesques et vraiment désagréables à voir, quoi, c'est terrible. Mais tout cela, mis à part, il y a effectivement une certaine chaleur humaine, notamment dans le sud de la Chine. Et à ce moment-là, je me permets de faire peut-être un certain parallèle avec, disons, le midi de la France également, dont je suis issu. Il y a ce genre de comportement très chaleureux, il y a même un temps brutal, dans lequel, finalement, on arrive à se mouvoir sans trop de difficultés et avec beaucoup de sympathie, finalement, pour certains et pour d'autres un peu moins.
Vous allez écrire encore sur la Chine ?
Oui, je suis en train, j'ai d'ailleurs pratiquement fini un second, parce que je ne m'arrête plus maintenant. J'ai envie, quoi.
Bien, alors on va rappeler le titre donc, de ce beau livre, La courtisane rouge, roman. Alors, sur la couverture sur roman, moi j'hésite entre polar et roman de voyage, mais un livre passionnant donc, de Robert Pialo, et c'est paru aux éditions de l'Harmattan. Merci beaucoup.
Et c'est moi qui vous remercie.
Quelques nouvelles de la vie littéraire à Montpellier. Tout d'abord, le lancement du numéro 2 de la revue La Piscine. Ça aura lieu demain, le 27 octobre, à 18h. C'est à la médiathèque, à la grande médiathèque, à Émile Zola. Alors, les auteurs sont des auteurs de par chez nous, puisqu'il y a Philippe Castelnau, Raymond Alcover, Christopher Sanchez, Louise Imagine et quelques autres, dont également Françoise Renaud, que nous avons déjà reçue et que nous recevrons, puisqu'elle vient de publier un nouveau livre. Voilà pour les revues. Alors ensuite, une exposition consacrée au bidonville. Ça s'appelle « Du bidonville à la ville ». Et cette exposition a lieu à La Fenêtre, au centre culturel La Fenêtre, rue Frédéric Pesson. C'est donc une exposition photographique qui a été réalisée par ce qu'ils appellent les bifins eux-mêmes, c'est-à-dire les habitants des bidonvilles. Voilà, c'est conçu en collaboration avec la Fondation Abbé Pierre et l'Université Paul Valéry. Et ça commence demain et ça a lieu jusqu'au 22 décembre au centre de La Fenêtre. C'est une petite rue, la rue Frédéric Pesson, qui monte derrière la gare. Mais ce lieu, La Fenêtre, commence à être quand même bien connu pour ses expositions et ses événements. Par ailleurs, donc, nous avons lu dans la revue Philosophie Magazine un entretien entre le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, et Catherine Kinsler, qui est une ancienne professeure de philosophie et qui dialogue au sujet du baccalauréat. Alors c'est assez intéressant parce que M. Blanquer, qui est dans un gouvernement plutôt libéral, prône un enseignement plus traditionnel et il envisage de rompre avec l'égalitarisme de façade et notamment de revoir pas mal de choses et notamment le baccalauréat. Et alors on y apprend qu'il ne faut pas se faire de soucis, c'est pas du tout un ennemi du bac philo, notamment, et il a l'occasion de déclarer à l'enseignante qui lui dit que si on passait la philosophie en contrôle contenu, ça porterait un coup funeste à sa place dans notre culture politique. Eh bien, M. Blanquer répond qu'il la rassure et lui dit que la philosophie n'est absolument pas menacée dans les perspectives que nous sommes en train d'ouvrir. Nous pensons au contraire profiter de cette réforme du baccalauréat pour opérer un renforcement de la philosophie dans le futur baccalauréat, aussi bien dans le bac qu'en amont, en classe terminale. Donc voilà, que les gens, les amateurs de philosophie se rassurent, le nouveau ministre ne va pas mettre en danger le baccalauréat philo. Bien au contraire, il est question de la généraliser à la classe de première. Alors ensuite, un film qui s'appelle Ex Libris, et c'est un film que l'on doit au célèbre documentariste américain Fred Wiseman. Alors, ce film, pour tout vous dire tout de suite, ce film est un peu long, puisqu'il dure 3h17. Mais c'est à la manière, Wiseman est un documentariste qui plante ses caméras dans des endroits significatifs, notamment dans les musées, dans des lieux publics, et puis qui regarde un peu comment la vie se passe. Et là, il a donc fait une plongée dans la New York Public Library, qui est la grande bibliothèque américaine de référence. Et il dit ceci: « Je pense que la New York Public Library est bien plus représentative de l'Amérique que Donald Trump. Elle représente la grande tradition démocratique de l'Amérique que Trump aimerait détruire. Et cet esprit démocratique est constitutif de l'Amérique et représente ce qu'elle a de meilleur. » C'est donc un hommage cinématographique à cet établissement, avec comme je le disais, ce regard très particulier de Wiseman qui observe sans intervenir et c'est, on plonge vraiment dans l'univers de cette New York Public Library. Le film s'appelle Ex Libris, évidemment. Alors, dans le numéro de Libération d'aujourd'hui, eh bien, on apprend sous la plume de Robert Majori que l'existence d'inédit de Hannah Arendt. Alors, Hannah Arendt, pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore, c'est cette philosophe qui a beaucoup étudié le procès Eichmann pour le compte d'un journal américain et qui a également écrit sur le totalitarisme de manière assez abondante. Ses textes font d'ailleurs autorité en la matière. Alors là, on publie 3 textes inédits et surtout un carnet d'observations datant de son enfance. Karine Biro, c'est l'historienne qui a fait ce travail, trace un portrait intime de la philosophe allemande en débusquant dans son éducation les principes mêmes qui fonderont ensuite sa pensée. Alors c'est assez rare de trouver des documents comme ça qui expliquent l'enfance des philosophes. Tel que Hannah Arendt, c'est très important puisque, bon, d'origine juive, on sait qu'elle a une relation avec Martin Heidegger, par ailleurs doyen d'université nazie, donc une vie extrêmement complexe, et qu'elle a donc quitté l'Allemagne pour se réfugier aux États-Unis, et puis ensuite elle a cette fréquentation du nazisme l'a suivie et a complètement imbibé son œuvre. Et donc Robert Majori nous explique comment ces 3 textes sont arrivés chez un éditeur et comment ils sont publiés aujourd'hui, de même qu'est republié un recueil d'essais qui s'appelle « Humanisme et terreur ». C'est donc Hannah Arendt et ce sont des inédits sur sa jeunesse et son enfance. Et nous allons terminer par 2 nouvelles de l'édition étrangère, parce que même si on ne lit pas les langues, il y a des revues qui nous introduisent à ces publications. C'est notamment le cas de la revue Books, qui fait une recension assez intéressante de ce qui se publie à l'étranger, dans d'autres langues. Et c'est ainsi que dans le dernier numéro de Books, eh bien, on apprend que Léonard de Vinci gonflait son CV. En 1842, Léonard de Vinci, qui avait alors 30 ans, s'installe à Milan et cherche un emploi auprès d'un potentat local. Alors dans sa lettre que le journaliste du Times qui en parle appelle le CV le plus gonflé de l'histoire, eh bien Vinci affirme savoir construire des forteresses, des ponts, des tunnels et toutes sortes d'engins de guerre. Tout ça n'est qu'une fanfaronnade, son expérience se limite alors qu'à quelques croquis. Alors grâce à cette lettre et quelques 7200 pages de notes laissées par Léonard de Vinci, le journaliste Walter Isaacson livre ainsi un Léonard de Vinci, un portrait assez humain, assez roublard aussi, du génie que l'on vénère évidemment à travers la Mona Lisa, la célèbre et son célèbre sourire. Donc l'homme qui se cache derrière des peintures très célèbres, en fait, ne se concevait pas comme peintre. Une quinzaine de tableaux seulement lui sont attribués et certains même ne sont pas terminés, soit parce qu'il s'ennuyait ou bien parce qu'il n'arrivait pas à obtenir le résultat qu'il souhaitait. En fait, peindre était surtout une méthode pour partager les fruits de son insatiable curiosité. La Mona Lisa révèle ses découvertes sur la musculature de la bouche et la scène démontre sa fascination pour la perspective géométrique. Dans son CV, De Vinci mentionne qu'il est peintre, mais que dans les toutes dernières lignes, comme s'il l'avait oublié. Paradoxe tout de même. Autre donnée, alors beaucoup moins rigolote celle-là, c'est que c'est un texte qui paraît à propos de la grande famine de 1932-33 en Union soviétique, que l'on appelle la famine rouge. Les émigrés ukrainiens ont forgé un terme pour cette famine, Holodomor. Holod signifiait faim et mort, extermination. Et c'est ainsi qu'environ 5 millions de personnes seraient mortes au cours de cette grande famine dans la région céréalière de l'Union soviétique, dont 3,9 millions en Ukraine. La politique brutale de collectivisation des terres et de répression menée par Staline ont déclenché et intensifié cette catastrophe que la journaliste Anne Applebaum, déjà récompensée par un Pulitzer pour son Goulag, étudie dans Red Famine. Son livre la conduit sur un terrain glissant et son sous-titre « Staline's War in Ukraine » fera sûrement réagir, note Sheila Fitzpatrick dans Le Guardian. Applebaum ne se range pas derrière l'idée soutenue par l'Ukraine selon laquelle Holodomor est un acte de génocide. Staline ne cherchait pas à tuer tous les Ukrainiens, dit-elle, mais physiquement les plus actifs et les plus engagés. Dans les lettres conservées dans les archives russes, les leaders soviétiques expliquaient vouloir casser la paysannerie et cela s'appliquait aussi bien à la Sibérie, au Nord-Caucase ou aux éleveurs nomades kazakhs. On voit par là que l'emprise stalinienne sur l'ensemble des peuples d'Union soviétique a été beaucoup plus large que l'on ne pourrait l'imaginer et que le crime s'est répandu de façon très importante, beaucoup plus importante que ne le disent encore les historiens. Voilà, sur cette information un petit peu triste, c'est ainsi que s'achève Gulliver. Et je vous donne rendez-vous, bien sûr, à la semaine prochaine.
Gulliver, l'hebdomadaire des livres, des images et des idées. À la rencontre d'un écrivain, d'un photographe ou d'un plasticien pour mieux décrypter le monde.
Mon dessin ne représentait pas un chapeau, il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant.
Une production Divergence FM proposée par Alain Vaquier et réalisée par Bruno Bertrand.